Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, Abdourahmane Dia pour vous présenter cette édition de 17h30 GMT. On est mardi 28 février 2017. Au sommaire, au Burkina Faso, les attaques contre les forces de sécurité se multiplient. Dernière en date cette nuit contre deux commissariats. En Guinée, trois ministres font les frais de la dernière crise scolaire et des manifestations meurtrières qui ont suivi. Au Conseil de sécurité de l'ONU, la Russie et la Chine opposent leur veto à des sanctions contre le régime de Damas. Premier discours très attendu ce soir du président Donald Trump au Congrès américain. Il tentera de convaincre les parlementaires de soutenir sa vision de l'Amérique. Et ne ratez pas les informations sur l'actualité économique et les sports. Mais tout d'abord, le journal. Direction le Burkina Faso, où des djihadistes ont attaqué cette nuit deux commissariats dans la province du Soum, dans le nord du pays, près de la frontière avec le Mali, deux mois après l'attaque qui a coûté la vie à 12 soldats dans le même secteur. Les détails avec Saloua Diafaré.
Les deux attaques ont visé Baraboulé et Tongomael dans la province du Soum. Elles ont eu lieu quasi simultanément, mais les tirs de Baraboulé étaient plus intenses. Mohamed Da, haut commissaire de la province du Soum, parle d'une dizaine d'hommes arrivés sur six motos qui ont criblé de balles le commissariat avant de s'enfuir. Le 16 décembre, une attaque de djihadistes sur un détachement de l'armée à Nassoumbou, dans la même province, avait fait 12 morts. Ce raid est le plus meurtrier jamais perpétré contre l'armée dans ce pays. Il a été revendiqué par le groupe Ansar l'Islam. Ces attaques surviennent pendant le 25e festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO. La fête du 7e art africain attire des dizaines de milliers de cinéphiles, dont de nombreux étrangers dans la capitale, placés sous haute surveillance policière.
Réaction de l'opposition guinéenne au limogeage par le président Alpha Condé de trois de ses ministres après de violentes manifestations d'élèves et plusieurs jours de grève d'enseignants. Certains opposants affirment que les violences meurtrières auraient pu être évitées si ces décisions avait été prise plus tôt. Jacques Aristide.
Par le truchement d'un décret, le président Condé a mis fin aux fonctions du ministre de l'enseignement préuniversitaire, Ibrahima Kourouma, pour le remplacer par Ibrahima Ralil Konaté. Également limogé, le ministre de la fonction publique, Sékou Kourouma, qui cède son portefeuille à Billy Nankuma Doumbouya, de même que la ministre de l'Environnement, Christine Sagneux, remplacée par Aissatou Baldé. L'ex-ministre et opposant Jean-Marc Télianeux salue le décret présidentiel, mais estime qu'il aurait dû être pris il y a longtemps pour éviter les violences qui ont fait des morts et des blessés. Quant à Fodéoussou Fofana, vice-président de l'Union des Forces démocratiques de Guinée, il est d'avis que le problème n'est autre qu'Alpha Condé lui-même et dit s'attendre à ce que tous les ministres à débarquer soient replacés comme ministres conseillers à la présidence. Les écoles ont rouvert en Guinée le 22 février après trois semaines de fermeture suite à la grève et aux violences qui ont fait officiellement cette mort à Conakry.
La mission des Nations Unies en Centrafrique donne le bilan de son opération contre une colonne de rebelles près de Bambari, c'est dans le centre du pays. Selon la MINUSCA, un rebelle a été tué et sept autres ont été blessés dans des frappes menées dimanche par des hélicoptères de la mission. Trois rebelles ont été arrêtés par les casques bleus durant ces opérations et seront interrogés par les autorités locales. C'est ce qu'a précisé le porte-parole de l'ONU, Stéphane Djouzarik. Le nouveau président somalien, Mohamed Abdullahi Mohamed, a décrété ce mardi catastrophe nationale face à la grave sécheresse qui ravage son pays. Selon les agences, 3 millions de personnes sont menacées par la famine. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a averti lundi que la Somalie risquait de sombrer dans sa troisième famine en 25 ans. Le jury du prix Mo Ibrahim, qui récompense chaque année un ancien chef d'État africain pour bonne gouvernance, a annoncé ne pas avoir trouvé de candidat qui réunit l'ensemble des qualités requises en 2016. C'est la sixième fois en 10 ans que ce prix d'une valeur de 5 millions de dollars n'a pas été attribué. Seuls 4 anciens présidents africains ont été récompensés depuis 2007. 9 islamistes armés ont été tués aujourd'hui par l'armée algérienne dans une opération antiterroriste en Kabylie, une région à l'est d'Alger. C'est ce qu'a annoncé le ministère de la Défense. Depuis le début de l'année, l'armée algérienne a multiplié les opérations dans les régions montagneuses de l'est, tuant plus de 30 islamistes armés. On reste en Algérie où Chouab Ouletach, ancien chef de la division héliportée de la Direction générale de la Sûreté, a été reconnu coupable d'homicide volontaire avec préméditation sur son ancien patron Ali Tounsé en 2010. Les juges du tribunal criminel d'Alger ont exclu la thèse de la légitime défense défendue par l'accusé qui a affirmé avoir tiré sur son supérieur qui le menaçait avec un coupe-papier. Le juge britannique chargé d'enquêter sur la mort de 30 ressortissants britanniques dans l'attaque terroriste de Sousse a estimé que la police tunisienne a réagi de manière chaotique. L'ambassadeur tunisien au Royaume-Uni a avoué, lui, que la police n'était pas préparée comme elle aurait dû l'être, mais il a ajouté que la sécurité a été nettement améliorée dans les hôtels et dans tout le pays.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ce soir, le président américain Donald Trump va prononcer son premier discours devant le Congrès américain. Même si le Congrès est majoritairement républicain, son indépendance et sa lenteur d'action pourraient freiner les réformes que souhaite mettre en place Donald Trump. Les explications de Claire Morin-Gibourg.
C'est à 21h à Washington, 2h du matin, temps universel, que le président des États-Unis s'exprimera au Capitole, devant les deux chambres réunies du Congrès. Un discours attendu où le président trace les contours des politiques qu'il souhaite mettre en place pour les 4 années à venir. Donald Trump devrait évoquer comment il compte financer la hausse de 9% de la défense. Plusieurs généraux, dont David Petraeus, ancien patron de la CIA, ont prévenu contre une réduction de l'aide américaine à l'étranger. Inquiétudes et divergences sont aussi tangibles dans le camp républicain pour ce qui concerne la santé. Dans leur circonscription, les parlementaires sont chahutés par leurs électeurs, inquiets de la possible abrogation du système de santé qui a permis à plus de 20 millions d'Américains de souscrire à une couverture maladie. Le fossé entre les pros et les anti-Trump pourrait se creuser davantage au sein du Parti républicain lors des négociations qui vont s'ouvrir sur le budget 2018.
La Russie et la Chine ont mis leur veto à une résolution de l'ONU qui prévoyait des sanctions contre la Syrie pour son utilisation d'armes chimiques dans le conflit qui dure depuis près de 6 ans. Le projet de résolution présenté par le Royaume-Uni, la France et les États-Unis a reçu 9 votes pour et 3 contre, ceux de la Chine, de la Russie et de la Bolivie. Le Kazakhstan, l'Éthiopie et l'Égypte se sont abstenus. La Russie a déclaré que la lutte contre le terrorisme est une priorité qui doit aussi figurer au menu des discussions de Genève sur la Syrie. Le ministre adjoint des Affaires étrangères s'exprimait à Genève où se tient le Conseil des droits de l'homme. Les pourparlers de Genève sur la Syrie, qui ont repris jeudi, visent à amorcer un règlement politique du conflit. En Irak, des centaines de civils ont trouvé refuge dans le désert au sud de Mossoul après avoir fui les combats opposant les forces irakiennes aux djihadistes. La deuxième ville du pays est aussi confrontée à une pénurie de produits de première nécessité. Les forces irakiennes appuyées par la coalition internationale conduite par les États-Unis mènent depuis le 19 février une offensive pour reprendre Mossoul Ouest. Un rapport officiel israélien publié ce mardi accuse le premier ministre Benjamin Netanyahou et ses généraux d'avoir mal préparé l'armée à la menace stratégique des tunnels de guerre du Hamas lors du conflit dans la bande de Gaza en 2014. Ces galeries creusées dans la bande de Gaza et sous la bannière de béton et de métal, sous la barrière de béton et de métal qui ferme hermétiquement les frontières israéliennes, constituées avec les roquettes l'une des armes essentielles du Hamas et des groupes combattants alliés contre Israël. Le plus grand procès de suspects soupçonnés d'être impliqués dans le coup d'État avorté du 15 juillet s'est ouvert ce mardi près d'Ankara. Des centaines de prévenus font face au juge. Les précisions de John Lyndon.
Pas moins de 330 accusés, la plupart membres d'une école d'officiers militaires, risquent chacun plusieurs peines de prison à vie pour des liens présumés avec la tentative de putsch menée l'été dernier par une faction dissidente de l'armée et imputée par Ankara au prédicateur islamiste Fethullah Gulen, exilé aux États-Unis et qui clament sans cesse son innocence. Ils sont poursuivis notamment pour assassinat, tentative de renversement de l'ordre constitutionnel et appartenance à une organisation terroriste. Ils sont poursuivis notamment pour assassinat, tentative de renversement de l'ordre constitutionnel et appartenance à une organisation terroriste. Selon l'agence pro-gouvernementale Anadolu, 243 des accusés sont actuellement en détention provisoire. Ce procès est le dernier en date à s'ouvrir en Turquie pour des putschistes présumés dont des milliers sont jugés ou en passe de l'être. Les procédures judiciaires lancées après le putsch avorté sont d'une ampleur sans précédent. Près de 43 000 personnes ont été arrêtées dans des purges engagées après le 15 juillet et l'instauration de l'état d'urgence.
Le président de la Commission européenne va dévoiler demain un livre blanc sur l'avenir de l'UE. Jean-Claude Juncker va explorer différentes pistes de réforme pour préserver l'unité de l'Europe suite au départ annoncé de la Grande-Bretagne. Monsieur Juncker a déjà plaidé publiquement pour une Europe à plusieurs vitesses pour dépasser les divisions qui bloquent trop souvent certains projets. Et puis un haut diplomate de Corée du Nord est arrivé aujourd'hui en Chine, a indiqué donc Pékin, suite à l'assassinat du demi-frère du dirigeant nord-coréen et la suspension par la Chine d'importation de charbon vital pour Pyongyang. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VO Afrique et voafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco, présentée ce soir par Morgane Guiriec.
Grève du syndicat pétrolier au Gabon, la situation restait tendue à Port-Gentil. La justice a déclaré illicite le débrayage, tandis que l'Organisation nationale des employés du pétrole consulte ses bases pour le dépôt d'un préavis de grève générale dans tout le secteur des hydrocarbures. La grève a été lancée mercredi dernier au sein de la filiale gabonaise du pétrolier français Morel et Prom à l'occasion de son rachat à 72,65% par l'indonésien Pertamina. L'ONEP qualifie d'agression physique l'intervention des forces de l'ordre jeudi contre des grévistes. Croissance en berne au Nigeria, l'économie a souffert d'une sévère contraction de moins 1,5% de son PIB en 2016 selon les chiffres officiels. Une chute provoquée notamment par la faiblesse des cours de l'or noir et les attaques répétées de groupes rebelles contre les installations pétrolières. Et enfin, la Tunisie mise en garde contre l'austérité par l'ONU. 6 ans après la chute de la dictature de Ben Ali, le pays ne parvient pas à faire redémarrer son économie. La dette publique devrait franchir les 70% en 2017, selon le FMI. La Tunisie a donc conclu un nouveau plan d'aide avec le FMI, qui prévoit la mise en œuvre de réformes socialement sensibles.
À présent, la page des sports avec Nicolas Pinault. Nicolas, bonsoir.
Bonsoir Abdourahmane, bonsoir à tous.
On démarre par le cyclisme tropical Amissa Bongo au Gabon.
Tony Hurel s'est imposé lors de la deuxième étape qui est arrivée ce mardi à Franceville. Le coureur de la formation Direct Energy devance le vainqueur de la veille, Mikel Aristi. Au classement général, le Français pointe en deuxième position derrière Mikel Aristi. Ce mercredi, la troisième étape entre Mounana et Koulamoutou proposera un parcours de 157 km.
La FIFA suspend le Nigérian Amos Adamu.
Oui, l'ancien membre du comité exécutif de la FIFA, déjà suspendu dans le passé pour des soupçons de corruption, a été suspendu 2 ans par la justice interne de la FIFA. Ancien membre du comité exécutif de la FIFA et de la Confédération africaine de football, Amos Adamu est l'un des nombreux noms du football mondial qui alimente la chronique judiciaire ces dernières années sur fond de scandales de corruption dans les procédures d'attribution des mondiaux de football. Adamu avait déjà été suspendu 3 ans en novembre 2010 par la commission d'éthique de la FIFA pour des soupçons de corruption dans l'attribution des mondiaux 2018 en Russie et 2022 au Qatar.
La Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans en Zambie.
On rappelle que dans le groupe A, demain, la Guinée fera face à l'Égypte et le Mali contre la Zambie. Dans ce groupe, la Zambie est première après sa victoire 1-0 face à la Guinée lors du match d'ouverture. Deuxième ex aequo, le Mali et l'Égypte qui avaient fait match nul 0-0.
Et on termine par la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Kevin Durant est de retour chez les Warriors. Golden State a battu Philadelphie 119-108 grâce notamment aux 27 points de Durant. De son côté, Cleveland a dominé Milwaukee 102-95. Boston a perdu sur son parquet contre Atlanta 98-114 alors que New York a cédé à domicile 91-92 face à Toronto.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour au Burkina Faso. Deux commissariats de police ont subi des attaques la nuit dernière dans la province du Soum, dans le nord du pays, près de la frontière malienne. C'est deux mois après l'attaque qui avait coûté la vie à 12 soldats dans le même secteur. Ce raid, le plus meurtrier jamais perpétré contre l'armée, a été revendiqué par le groupe Ansarul Islam, dirigé par le Burkinabé Malam Ibrahim Diko. Pour une analyse, Idriss Fall a joint Ibrahim Maïga, ancien journaliste basé à Saint-Cloud dans le Minnesota.
Malam Ibrahim Diko, c'est un prédicateur de la zone du Soum, la province où les attaques se perpétuent couramment au niveau du Burkina Faso. Et c'est quelqu'un qui a fait une partie de ses études coraniques au Mali et une autre partie au Niger, puisqu'il a beaucoup séjourné à Niamey.
Apparemment, il avait pignon sur rue dans la ville de Djibo.
Effectivement. En fait, en 2012, il avait été arrêté par l'armée française lors d'une opération. Il a été libéré deux ans après avoir été détenu à Bamako. Il est revenu à Djibo, où sur une radio locale, il faisait des prêches en permanence.
Mais à partir de quand s'est-il radicalisé alors?
Il a toujours été très radical. Le radicalisme dans nos zones, ce n'est pas quelque chose qui est caché, mais c'est le fait qu'il ait pris les armes qui a mis à lumière la situation.
Et qu'est-ce qu'il veut donc? Est-ce que c'est le djihadisme tel qu'on le connaît au niveau d'Al-Qaïda? Ou bien c'est comme Amadou Koufa au Mali?
Il est très lié à Amadou Koufa et il joue sur la cible ethnique. Il a les mêmes ambitions parce que pour lui, la seule chose qui est acceptable dans la zone, c'est d'avoir l'islam comme principale religion et aucune autre religion ne peut être tolérée ou acceptée dans la zone. Donc c'est les mêmes ambitions en quelque sorte, sauf à l'exception près que lui, il parle d'instaurer le Djelgodji. Le Djelgodji, c'est un sous-groupe ethnique Peul, qui avait un territoire dans la zone de Djibo dans les temps anciens. Il parle de restauration du Djelgodji et de l'indépendance du Djelgodji pour l'islamiser.
En fait, un djihadisme bien local et bien burkinabé.
C'est un djihadisme purement local et pas seulement burkinabé, largement ethnique. Quand on regarde ces liens, ça va au Niger et ça va au Burkina, mais ça n'a rien à voir avec l'ancien type de djihadisme qu'on connaît. Ça n'a pas de connexion directe, peut-être que des rapports d'intérêt ou bien des rapports de cause, mais ça n'a pas de lien direct avec ce que l'on connaît.
C'est-à-dire pas de lien direct avec les Mokhtar Belmokhtar ou bien le Moujaou et tout ça, quoi.
Absolument, absolument. Ils ont des liens de circonstance puisque ce qu'ils partagent en commun, c'est la terreur, mais ils n'ont pas les mêmes sources ni les mêmes origines. Il est déjà un danger pour le Burkina et pour la sous-région. Il a beaucoup de connexions et il s'appuie essentiellement sur la politique de la peur pour museler les populations afin d'éviter que les gens dénoncent. Et il réussit très facilement à imposer sa vision dans toute la zone.
C'était Ibrahim Maïga, ancien journaliste basé à Saint-Cloud dans le Minnesota, ici aux États-Unis.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Dans la capitale togolaise, Lomé, les automobilistes expriment leur mécontentement suite à l'augmentation du prix des produits pétroliers. Les conducteurs de taxis et de taxi-moto ont bloqué les voies pour exprimer leur désarroi ce mardi. Reportage à Lomé de notre correspondante Kay Lawson.
Circuler ce mardi 28 février à Lomé est comparable à un parcours de combattant. Déjà vers 10 heures, les premiers signaux sont donnés à Décon, le plus grand carrefour commercial de Lomé. Les conducteurs de taxi viennent de bloquer la circulation. Ils protestent contre la hausse du prix du carburant, décision prise hier nuit et entrée en vigueur ce jour.
Pourquoi nous avons bloqué la voie? Parce que c'est à cause de l'augmentation de l'essence. Il faut que le gouvernement nous explique. Il faut que le gouvernement nous explique clairement pourquoi ils ont augmenté. Le gouvernement ne peut pas être là dans une chambre et augmenter seulement c'est quoi?
Comme une traînée de poudre, le mouvement se propage et paralyse la circulation dans la capitale. Les grandes artères de la ville sont barricadées, les ruelles sont devenues des substituts, que ce soit Carrefour du marché de Berre, réputé fief de l'opposition, ou à la jonction des boulevards de la République du Mono et du boulevard circulaire au niveau de la plage, ou encore au Carrefour GTA menant vers la banlieue nord d'Agouin, qui serait favorable au pouvoir de Lomé, les manifestants sont sur la même longueur d'onde. Ramener les prix à ceux du 27 janvier dernier est la seule et unique exigence.
Le prix du carburant se lève chaque fois. En un mois, ils ont augmenté le prix du carburant deux fois. En moins d'un mois, on ne peut plus supporter. Ça va de loin, on ne peut plus supporter. Le mois de janvier, ils ont augmenté. Donc à partir d'aujourd'hui, on va bloquer toutes les routes. Toutes les routes vont être bloquées. Pas de passage, voiture, moto, pas. Ils n'ont qu'à diminuer le prix. C'est ça, c'est ce qu'on veut. C'est le Togo seul. C'est le Togo seul. Au Bénin, il n'y a pas ça. Au Ghana, ici, il n'y a pas ça. C'est le Togo seul. En moins d'un mois, deux fois. Non.
On n'a qu'à diminuer pour le pétrole. C'est tout.
Jusqu'en début d'après-midi, la situation reste tendue à Lomé. Par un arrêté interministériel, le gouvernement togolais a procédé à une hausse des prix des produits pétroliers à la pompe. Une augmentation qui se situe dans l'intervalle 43 et 48 francs CFA sur le litre, soit environ 10%. Rappelons que le SMIC actuellement en vigueur dans le pays est fixé à 35 000 francs CFA, soit 60 dollars américains. Kyle Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Dans Washington Forum ce jeudi, Cameroun, le malaise anglophone. Des rassemblements violemment réprimés par les autorités qui ont interdit de manifester. Internet coupé et l'arrestation de trois leaders de la contestation. Dans le nord-ouest et le sud-ouest, la minorité linguistique s'estime lésée. Que veulent les Camerounais anglophones? Le dialogue avec le gouvernement est-il dans l'impasse? Quelle unité du pays après 34 ans de Paul Biya au pouvoir? Laissez-nous vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique et je vous donne rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel avec Tatiana Mosso et ses invités.
Le FESPACO marque la 25e édition de cette fête panafricaine du cinéma à Ouagadougou, mais depuis sa naissance en 1969, aucune femme n'a pu décrocher le Grand Prix à Talon de Yenenga. Des éléments de réponse dans ce dossier signé Zoumana Wanogo à Ouagadougou pour VOA Afrique.
Le Grand Prix du FESPACO est symbolisé par le cheval de la princesse Yenenga. Seulement voilà, depuis la création du festival, aucune femme n'a pu chevaucher cet étalon de Yenenga. Et pourquoi? Voici ce qu'en dit Cheikh Oumar Sissoko, le secrétaire général de la FEPACI, Fédération panafricaine des cinéastes.
Elles ont peur du cheval. J'ai dit ça pour rigoler, mais nous avons failli à notre devoir de permettre à la femme d'être bien formée et d'avoir les possibilités de faire des films. C'est vrai que la femme est toujours au second rang. À l'école, elle est absente. Dans les postes de responsabilité, elle est absente. À l'armée, elle est absente. Au cinéma, elle est absente. Mais je pense que ça va venir. Vous en faites pas, ça va venir. Il y a de très grands films des femmes. Peut-être que leurs films ne sont pas présentés au bon moment.
Serait-ce parce que les hommes écrasent trop les femmes? Avons-nous demandé à Moussa Touré, réalisateur venu du Sénégal.
Je ne sais pas au Burkina, mais au Sénégal, non. Parce qu'au Sénégal, nous avons eu les femmes cinéastes. C'est les premières qu'on a eues en Afrique, c'est nous. Hein. Donc non, peut-être au Sénégal, on n'écrase pas. C'est elles-mêmes qui nous écrasent. Il faut quand même revoir l'histoire. Mais si on revoit l'histoire, on verra que Sophie Faye était là. Sophie Faye, elle a été une des premières. Mais c'est vrai que ça, c'est une belle réflexion. Hein. Et probablement, ça reflète un tout petit peu notre Afrique aussi. Vous savez, ma mère fait partie des premières qui ont eu un permis de conduire au Sénégal. Ma maman, ça veut dire que c'est toujours un événement. Peut-être c'est dû à ça. C'est dit qu'on attend un événement pour donner le Yenenga à une femme.
Qu'en disent les femmes elles-mêmes? Suivons la démonstration de Suzanne Kourouma, la secrétaire générale de l'Union nationale des femmes de l'image du Burkina.
Le cinéma a commencé il y a combien d'années au Burkina Faso? Et quand le cinéma a commencé, les hommes ont commencé à tourner. Est-ce qu'il y avait des femmes sur les plateaux? S'il y avait des femmes sur les plateaux, c'était des cuisinières, c'était des stagiaires, c'était des scripts. Mais petit à petit, les femmes ont commencé effectivement à se positionner. Elles sont devenues des assistantes, premières assistantes de réalisation ou bien même diriger la production. Si une femme n'a pas encore eu les talents, c'est pas parce que les œuvres ne sont pas bonnes, mais c'est une compétition. Ça veut dire qu'elles doivent encore travailler pour atteindre cette perfection-là, pour pouvoir mériter les talents.
Apolline Traoré est l'une des deux femmes en compétition. Nous lui avons demandé si cette année sera la bonne pour les femmes.
Non, vous savez, j'ai toujours dit que les trophées pour moi, les prix pour moi, c'est vraiment un plus. Moi, ma plus grosse victoire déjà, c'est que le public aime ce que j'ai fait et que j'arrive à attirer le monde, que j'arrive à attirer les journalistes, que j'arrive à attirer les critiques et que j'ai de bonnes critiques et que mon film et mon cinéma est apprécié. Maintenant, si j'ai eu cette première victoire, les talents, vraiment, c'est vraiment un surplus. Et je le dis et je le répète, je ne serai en aucun cas contente ou heureuse d'obtenir un étalon de Yenenga et après je projette le film et que j'ai deux personnes dans la salle.
Zoumana Wanogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Le président de la FIFA poursuit sa tournée africaine. Aujourd'hui, Giovanni Infantino a terminé sa visite au Niger où il a inauguré un centre technique de football financé par la FIFA. Le reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Mesdames et messieurs, chers amis du football ici au Niger.
C'est en compagnie du président Issoufou Mahamadou que le patron du football mondial a inauguré ce centre d'une douzaine d'hectares qui comporte trois pelouses, un complexe d'hébergement, un bâtiment administratif, un hôtel ayant une capacité d'accueil de 45 personnes, un restaurant et un cybercafé. Le montant global qui y est investi est d'un peu plus de 2 600 000 dollars américains dans le cadre du projet Goal de la FIFA. Un bijou selon Gianni Infantino.
Je suis très heureux d'être ici aujourd'hui pour pouvoir inaugurer ce bijou, ce centre magnifique, un centre qui est un exemple pas seulement pour cette région, un exemple pas seulement pour l'Afrique, un exemple pour le monde, parce que c'est pas facile de mettre sur pied une infrastructure pareille. C'est important, bien sûr, pour le football, mais c'est important aussi pour la population, parce qu'avec le football, on peut donner un sourire, on peut donner un peu de bonheur, on peut donner un peu de joie.
Le président de la Fédération nigérienne de football, le colonel Jibrila Hima Hamidou, a lui saisi l'occasion pour exprimer la reconnaissance de la famille du football nigérien pour cet honneur que lui fait Infantino de la visiter.
Monsieur le président de la FIFA, je voudrais aujourd'hui vous remercier très sincèrement pour avoir rempli l'engagement pris de longue date de visiter notre pays malgré votre agenda très chargé. Gage s'il en est besoin de votre disponibilité affirmée dans votre programme d'être au service du football mondial. Veuillez recevoir notre profonde reconnaissance et toute notre gratitude pour ce fort témoignage d'amitié qui honore notre peuple.
Gianni Infantino est le deuxième président de la FIFA à visiter le Niger après Joao Avelange en 1981 et c'est en reconnaissance de cela qu'il a été élevé au rang de commandeur de l'ordre du mérite du Niger par le président de la République Issoufou Mahamadou. Abdulrazak Idrissa à Niamey pour VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, antenne libre, des sujets débats. RM Show donne la parole aux auditeurs. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Georges Léonard Sagnon était à la mise en onde, Nachwal Kale à la console. Présentation Abdulrahman Dia. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste en contact sur Facebook. Rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24h sur 24. Au revoir.
Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM. Raga FM, Kinshasa. Soleil FM, Conakry. 92.3 FM, Radio Wenpanga. Wayegouya, Burkina Faso. Et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.